Vous écoutez C'est pour ma pomme, le podcast qui parle des produits Apple et de leurs usages, mais pas que. Je suis David, bienvenue dans un nouvel épisode. Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast, l'épisode 100, j'y suis enfin arrivé. Je pensais clairement pas, quand j'ai commencé le podcast il y a quelques années, en arriver à l'épisode 100, mais j'y suis arrivé. Dans cet épisode, on va parler d'iPad. Alors, avec la possible annonce de plusieurs Mac équipés de puces Apple Silicon cette année, et là, possiblement dans les quelques semaines, mois qui viennent, est-il encore vraiment pertinent pour moi, en tout cas, de s'entêter à utiliser l'iPad Pro comme machine principale? N'irais-je pas plus vite dans mes tâches quotidiennes pour le blog, le podcast, avec un MacBook, et notamment avec un MacBook Pro dernière génération? En ce moment, je dois avouer que je me pose très souvent la question et j'essaye de peser les pour, les contre, pour pouvoir prendre une décision assez réfléchie plus tard dans l'année, je pense vers la rentrée de septembre, pour savoir si je prends possiblement ou le futur iPad Pro M2 ou bien un MacBook Pro dernière génération. Alors dans ma réflexion, j'ai fait une, comme je fais à peu près pour toutes les réflexions que j'ai à prendre, j'ai fait une liste de pour, une liste de contre, et puis j'ai un peu regardé, checké ce qu'il y avait de bien sur une plateforme, bien sur l'autre, et ce qui était le mieux pour moi au final. Alors on va commencer sur les choses qui sont disponibles sur un Mac. Alors sur un Mac, notamment sur un MacBook Pro, et je vais prendre comme exemple le MacBook Pro 16, parce que si je devais changer d'environnement et si je devais passer sur un MacBook, alors pour petit rappel, moi j'ai déjà un MacBook, j'ai un MacBook Air qui ne me sert quasiment pas par le fait que j'utilise mon iPad Pro depuis plusieurs années maintenant comme machine principale de production. Mais si je devais changer pour prendre un MacBook Pro, je me tournerais, je pense, vers la dernière génération en 16 pouces. Alors, quels sont les avantages d'un tel modèle? Déjà, on peut partir sur le premier avantage le plus visible, un écran plus grand. 16 pouces pour le maximum, on le sait, avoir un écran plus grand, c'est toujours plus facile pour disposer des fenêtres, c'est toujours plus agréable pour travailler. Donc voilà, le fait d'avoir un grand écran, ça pourrait être un plus qui serait en faveur du Mac. Deuxième avantage en faveur du Mac, la présence justement de la suite Pro des logiciels d'Apple. Final Cut, Logic Pro, Xcode, toute cette suite de logiciels qu'Apple a mis des années et des années à mettre au point et à améliorer. Et on peut en dire ce qu'on en veut, notamment pour Final Cut, il y a énormément de personnes qui préfèrent faire leur montage sur Adobe Premiere. Mais bon, voilà, si vous êtes sur un Mac ou sur un iPad, ou du moins si vous êtes dans l'environnement Apple, la logique voudrait que vous utilisiez Final Cut. Donc voilà, le fait que ces logiciels-là, ces logiciels pro, soient disponibles sur un Mac, c'est aussi un avantage. Troisième avantage que je vois, alors c'est plus un avantage qui me touche moi, mais c'est la possibilité de brancher des écrans externes. Vous verrez, j'y reviendrai tout à l'heure sur l'iPad, mais ce qui est bien sur un MacBook, c'est que vous pouvez brancher des écrans externes jusqu'à, au minimum deux écrans externes. Comme ça, voilà, vous avez vraiment un environnement de travail qui est beaucoup, beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable. Dernier avantage que je vois, alors je ne doute pas et je pense que s'il y a des commentaires, je pense qu'on viendra me dire qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'avantages que ça. Moi, c'est les avantages que je vois et c'est les avantages qui sont en rapport avec ma façon de produire du contenu, avec ma façon de travailler. Quatrième avantage que je vois pour le MacBook Pro, la puissance, qui est nettement supérieure à la puissance d'un iPad Pro. Surtout si on compare, on va comparer la dernière génération, donc on va prendre l'iPad Pro M1 et les MacBook Pro 16 pouces avec le M1 Max. Si vous prenez les deux extrêmes des deux gammes, donc c'est-à-dire le plus puissant de l'iPad Pro et le plus puissant du MacBook, voilà, il y a aucune question à se poser. Le MacBook Pro M1 Max sera toujours beaucoup, beaucoup, mais vraiment beaucoup plus puissant. Donc c'est un point en faveur du Mac, nettement même, j'ai envie de dire. Passons maintenant au point positif sur l'iPad Pro, selon moi, hein, toujours, c'est selon moi, et je pense, alors cet épisode est bien sûr une réflexion que j'ai eue au long de ces dernières semaines, mais je pense que je suis quand même biaisé du fait d'utiliser moi un iPad Pro comme machine principale depuis maintenant presque 4 ans. Donc, les avantages de l'iPad Pro selon moi. Premier avantage, l'interface tactile, qui est selon moi, et ça je pense personne pourra l'enlever, bien plus intuitif, que sur un Mac. Et pourtant, moi je viens du Mac de base, hein. Moi j'ai commencé sur Mac en 1994, donc voilà, j'ai eu des Mac pendant des années et des années, en passant par vraiment les Mac les plus iconiques, le premier iMac, le Bondi Blue, enfin voilà, tous ces Mac-là, je les ai eus, le premier iPad, le premier MacBook Air, le premier Unibody. Enfin voilà, j'ai eu toute une gamme de Mac avant de passer à l'iPad Pro. Donc moi, je viens du Mac, mais je trouve quand même l'interface tactile de l'iPad, pour l'utiliser depuis maintenant, comme je le disais, presque 4 ans au quotidien, beaucoup plus intuitive, beaucoup plus facile d'utilisation. Donc voilà, pour moi c'est un point vraiment vraiment en grande faveur de l'iPad. Et autre point enfin qui irait dans ce sens-là par rapport à l'iPad, ce que j'aime bien moi notamment sur l'iPad, c'est qu'on a, comme je vous le dis, une interface tactile qui est intuitive, mais au possible par rapport au Mac. Mais avec l'arrivée il y a quelques temps maintenant du Magic Keyboard, qui a, alors là, en petite parenthèse, mais qui a moi changé littéralement ma vie. Le Magic Keyboard, c'est quelque chose que j'utilise, mais à longueur de journée. Mais voilà, avec l'arrivée du Magic Keyboard, je trouve qu'on a le meilleur des deux mondes en fait. On a le tactile d'un côté qui est très intuitif, mais voilà, si vous voulez vous mettre sur votre bureau, avoir la position ordinateur, ben vous avez le Magic Keyboard qui transforme, il n'y a pas d'autre mot, qui transforme littéralement votre iPad en ordinateur. Donc pour moi, c'est le premier gros point positif en faveur de l'iPad Pro. Deuxième gros point positif en faveur de l'iPad Pro, bah, le nombre d'applications sur l'App Store, qui est bien supérieur sur l'iPad par rapport au Mac. Alors oui, encore une fois, certains vont me dire en commentaire, oui, mais sur le Mac, on n'est pas obligé d'aller chercher ces applications sur le Mac App Store, on peut aller les chercher sur Internet directement. Mais moi, là, je me concentre sur le catalogue disponible directement à l'achat de la machine, directement dans l'Apple Store, dans l'App Store, par contre. Pardon. Donc, le nombre d'applications est bien supérieur sur l'iPad que sur le Mac, et bien plus diversifié sur l'iPad que sur le Mac. Donc, c'est un point totalement positif en faveur de l'iPad. Troisième point positif, bah, comme un peu, ça ressemble un peu au premier point, mais voilà, la possibilité de passer d'un setup avec clavier, tel un ordinateur, comme je suis en train de l'utiliser là quand j'enregistre l'épisode du podcast, à un setup beaucoup plus posé. C'est-à-dire que moi, avec mon iPad Pro, je peux très bien là enregistrer l'épisode du podcast assis à mon bureau avec l'iPad Pro sur le Magic Keyboard, et dès que j'ai fini l'enregistrement, décrocher l'iPad, aller me mettre sur le canapé pour faire l'édition de l'épisode. Enfin voilà, c'est vraiment la possibilité de passer d'un setup à un autre beaucoup plus posé, chose qui n'est clairement pas possible avec un MacBook Pro, parce que vous aurez toujours le même setup, que vous vous mettiez à votre bureau ou que vous vous mettiez sur votre canapé, le setup restera le même, ça sera toujours écran, clavier. Donc voilà, le fait de passer d'un setup à l'autre, je trouve que c'est vraiment agréable, et encore une fois, c'est un point en faveur pour moi de l'iPad Pro. Je parlais de dessiner juste avant, bah justement, en parlant de dessiner, le Pencil que j'utilise pareil comme le Magic Keyboard à longueur de temps, et qui lui aussi au final, ça fait bah, moi j'ai le Magic Keyboard et l'Apple Pencil depuis leur sortie, et je dois bien avouer que bah, c'est des des accessoires dont je ne pourrais clairement plus me passer. C'est des accessoires pour moi qui font partie intégrante de l'iPad Pro. Je ne conçois pas à cette heure-ci un iPad Pro sans Magic Keyboard et sans Apple Pencil. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment des accessoires. Je ne vais pas dire obligatoire parce que obligatoire, ça serait un mot un peu fort. Il y a des gens qui utilisent l'iPad Pro sans avoir un Pencil, sans avoir un Magic Keyboard. Mais si vous voulez, alors c'est pareil, je vais mettre ça entre gros guillemets pour pas que des gens se sentent. Mais si vous voulez produire du contenu, on va dire travailler un minimum avec un setup iPad Pro, c'est quasiment obligatoire d'avoir l'Apple Pencil et le Magic Keyboard. Donc voilà, pour moi, le Pencil, encore une fois, c'est un point très positif en faveur de l'iPad Pro, chose qui n'existe absolument pas sur le MacBook. Et de toute façon, le MacBook n'est encore pas tactile et j'ai de gros doutes qu'il le devienne un jour. Steve Jobs avait dit à l'époque, le Mac ne deviendra jamais tactile. Alors à moins que Tim Cook change les plans et qu'Apple retourne sa veste, je ne pense clairement pas qu'on verra arriver un MacBook tactile. Un jour. Autre point positif en faveur de l'iPad, les applications pro disponibles sur l'iPad. Alors tout à l'heure je disais qu'il y avait quand même la suite sur le MacBook, la suite Apple qui était réellement intéressante, Final Cut, Xcode. Et Logic Pro, mais on a quand même sur l'iPad, faut pas se mentir, on a quand même de très 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 bonnes applications pro. Alors je vais vous en citer trois, c'est celles que j'utilise à longueur de journée, mais LumaFusion, Ferrite et Lightroom. LumaFusion, petit rappel, c'est l'équivalent de Final Cut sur l'iPad. Ferrite, on va dire c'est l'équivalent de Logic Pro, mais en beaucoup 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 moins. Il y a beaucoup moins de fonctions sur Ferrite, mais disons que c'est l'application avec laquelle j'enregistre l'épisode de podcast, et c'est réellement une très très bonne application pour enregistrer de l'audio sur un iPad. Et Lightroom, tout le monde connaît, pour éditer vos photos. Et je trouve, pour l'utiliser depuis maintenant plusieurs années, que la version iPad est tout aussi bonne que la version Mac. Enfin, moi, j'ai pour utiliser les deux, parce que des fois, ça m'arrive d'utiliser Lightroom sur mon MacBook Air, pour utiliser les deux versions, j'ai même l'impression que c'est beaucoup plus simple d'utiliser Lightroom sur l'iPad, du fait d'avoir le Pencil, d'avoir tous ces accessoires à côté. Donc voilà, ces applications pro sur l'iPad sont réellement, pour moi, de très, très, très bonnes applications. Donc, encore une fois, un point positif pour l'iPad. Deux autres points, maintenant, les deux derniers points qui sont en faveur de l'iPad pour moi, et deux points qui, au fur et à mesure des semaines, au fur et à mesure des mois là, qui passent, de plus en plus deviennent des points, je ne vais pas dire les plus importants de mon workflow sur iPad, mais quasiment. On va dire que ça a pris maintenant... pas totalement, pas 50% de mon workflow, mais quasiment. Premier point, les widgets qui sont beaucoup, beaucoup plus développés sur iPadOS et iOS que sur macOS. Sur macOS, on va pas se mentir, les widgets n'existent pas ou quasiment pas. Mais sur iPad et sur iPhone, mais je parle plus précisément de l'iPad là parce que c'est l'iPhone, c'est beaucoup moins un appareil où vous pourrez vous poser à votre bureau pour travailler, pour créer du contenu. Donc les widgets sur iPad sont très très bien développés. Je les utilise de plus en plus. J'ai trouvé au fur et à mesure des semaines, des mois, une façon de les utiliser, de bien diversifier mes pages sur mon iPad, avoir une page création de contenu, une page... médias, enfin pour lire du média, pour regarder des séries ou toute autre chose. Donc voilà, j'ai bien diversifié mes pages et les widgets dans cette configuration là sont très 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 utiles et comme je le disais, moi je les utilise de plus en plus. Deuxième point très important, de plus en plus important pour moi, et là au fur et à mesure que les semaines passent, ça devient réellement j'ai envie de vous dire la majeure partie de mon workflow, c'est l'application Shortcut. Alors j'en ai sûrement parlé, je sais plus, mais j'ai dû sûrement en parler dans d'anciens épisodes. Mais il y a un site internet que moi je suis, mais alors c'est même plus régulièrement, c'est un site où je passe plusieurs fois par jour, c'est Max Stories. Le site de Federico Viticci. Federico Viticci, grand pape de l'utilisation de l'iPad Pro et de la productivité sur iPad Pro. Et ce site est réellement tourné vers Shortcut, vers les raccourcis. De plus en plus, ils utilisent, ils vont, ils créent des raccourcis de plus en plus puissants, de plus en plus évolués. Et voilà, j'ai. Le fait d'utiliser, enfin d'aller lire sur ce site de plus en plus au fur et à mesure des mois, je me suis vraiment intéressé à l'application Shortcut. Et là, depuis des semaines, j'essaye, mais alors littéralement, de tout automatiser. Tout ce que je peux automatiser grâce à raccourcis, à Shortcut sur mon iPad ou sur mon iPhone, je le fais. D'ailleurs, je pense que dans les semaines à venir, je vous ferai comment un article de blog qui vous explique comment j'utilise mon iPhone au quotidien. Alors moi, j'utilise mon iPhone avec plein de raccourcis, plein de widgets, mais une seule page sur mon Springboard. Enfin voilà, je vous expliquerai tout ça dans un article dans les semaines qui viennent. Mais pour revenir à l'application Shortcut, clairement, ben, pour moi, ça devient un game changer sur l'utilisation de l'iPad Pro. Alors, on le sait, c'est disponible maintenant sur le Mac, l'application Shortcut, mais pour l'avoir, enfin, les Shortcuts sont disponibles sur le Mac, mais pour l'avoir un peu testé, je dois bien avouer que c'est encore pas aussi poussé, du moins pas aussi facile d'utilisation que sur iOS et sur iPadOS. Et moi, je me rends compte là, au fur et à mesure des semaines, de plus en plus de l'étendue des possibilités de shortcut, de ce qu'on peut faire avec. Et clairement, si vous ne vous êtes jamais intéressé à cette application, ou du moins de très loin, prenez un peu de temps, allez mettre un peu le nez dedans. Et essayer de comprendre comment ça marche. Alors, si vous comprenez l'anglais, allez sur Mac Stories. Et encore, quand je dis si vous comprenez l'anglais, maintenant sur Mac, sur iPad, vous pouvez traduire toutes les pages de tous les sites internet en français. Donc, allez sur Mac Stories, allez lire des articles, allez lire des reviews, des tests de comment, de Federico Viticci, de tous ces shortcuts qu'il crée au fur et à mesure de l'année. Et vous verrez l'étendue des possibilités de cette application et clairement moi ça a changé mon utilisation de l'iPad Pro. Alors voilà, pour moi c'était les points positifs en faveur de l'iPad. Comme vous aurez pu certainement le remarquer, j'ai quand même beaucoup plus d'affect moi avec mon iPad Pro, avec tout ce que je viens de vous citer et je dois pas vous mentir. Et là, entre gros guillemets, spoiler alerte, oui, je pense encore clairement que mon choix d'être passé sur l'iPad Pro comme machine principale était le bon. Quand je suis passé sur iPad Pro, à l'époque, c'était le 10,5, l'iPad Pro 10,5. Pour moi, c'était le bon choix et je le regrette encore, enfin, je le regrette pas du tout encore maintenant. Cependant, je dois bien avouer que plus le temps passe, plus je me rends compte que l'iPad Pro n'est pas encore la machine parfaite que j'attendais. Il lui manque encore pas mal de choses pour le devenir. Alors, moi j'espère vraiment que ces manques seront peu à peu comblés avec le temps. J'espère vraiment que certaines de ces améliorations, là on arrive sur les débuts de l'année, il va y avoir notamment une conférence. Alors, peut-être le 8 mars, j'en ai parlé dans un précédent épisode, mais on n'a encore pas la confirmation au moment où j'enregistre là. Mais voilà, on aura la keynote du 8 mars. Après, il y a la WWDC. Il y aura pas mal d'annonces normalement qui vont être faites cette année. Donc j'espère que certaines de ces améliorations que moi j'attends de pied ferme vont être annoncées cette année. Parmi ces améliorations, je vais vous en citer quelques-unes. Bien sûr, comme je le disais au début de l'épisode, moi ce que je souhaite, c'est un gain significatif de puissance de l'iPad Pro, ce qui devrait normalement arriver avec l'arrivée de la puce M2. On le sait, et ça c'est un secret pour personne, iPad Pro nouvelle génération sera avec la puce M2. Ça m'étonnerait clairement qu'Apple, pardon, aille vers un iPad Pro avec une M1 Pro ou une M1 Max. Je pense que ça sera sur les MacBooks que ces gammes seront ouvertes. Je pense que l'iPad passera plus facilement d'une génération à l'autre. Deuxième amélioration que j'attends, moi, c'est pour moi une des plus grosses améliorations. Ce que j'attends, c'est la compatibilité complète avec un écran externe. Quand je dis compatibilité complète, si vous avez un iPad Pro et que vous avez déjà essayé de brancher un écran externe, alors ça va marcher, vous aurez l'écran de votre iPad Pro sur l'écran externe. Seulement, vous aurez deux énormes, mais alors quand je dis énorme, ça fait quasiment entre 5 et 10 cm de bandes noires sur les côtés. Et clairement, ce n'est pas utilisable de cette façon. Donc moi, j'attends la compatibilité complète d'un écran externe avec un iPad Pro. Et je dois bien l'avouer, je dois le confesser sur ce podcast. Moi, c'est clairement la chose qui fait que j'ai encore pas acheté d'écran externe pour mon setup, c'est que j'attends cette compatibilité. Étant passé sur un iPad Pro depuis plus de 4 ans maintenant, enfin un peu, non, 4 ans on va dire, dans les eaux-là, dès que cette compatibilité complète sera arrivée, je sauterai sur l'occasion et j'aurai un écran externe pour avoir plus de surface d'affichage. Mais là, clairement, moi, je pourrais pas travailler avec ces deux énormes bandes noires sur les côtés. Donc voilà, ça c'est un point. Je pense un des points que j'attends le plus des futures versions d'iPadOS, des futures versions de l'iPad Pro pour la productivité, pour la facilité d'utilisation, enfin pour tout un tas de choses. Mais c'est une amélioration réellement que j'attends. Autre amélioration, j'en ai parlé tout au long de cet épisode, mais je l'ai dit juste avant, on a de très bonnes applications pro sur l'iPad, LumaFusion, Ferrite. Mais ça serait quand même bien pour une homogénéité de toute la gamme qu'Apple fasse arriver sa suite pro sur iPad. Un Logic Pro, un Final Cut, un Xcode sur iPad, ça serait, enfin, on va pas se mentir, ça serait quand même plutôt sexy. Alors pour Final Cut, ils pourraient très bien racheter une boîte comme LumaFusion. Ils en ont largement les moyens. Pour Logic Pro, pareil, il pourrait s'aider de Ferrite, de tout un tas d'applications qui sont déjà disponibles sur l'iPad. Xcode, on sait que là, de plus en plus, les briques s'assemblent pour que ça soit possible. On sait que maintenant, sur Playground, sur l'application Playground, vous pouvez faire du code, vous pouvez coder, alors, des applications, vous pouvez déjà les envoyer sur l'App Store. Donc voilà. On sent qu'Apple y met un pied, mais c'est plutôt lent. Apple va à son rythme. Mais voilà, l'arrivée de la suite pro des applications Apple sur iPad, ça serait vraiment, vraiment, vraiment une très, très bonne chose. Autre point que j'attends, plus de possibilités concernant l'application raccourci, comme je le disais avant. On peut déjà faire énormément de choses, mais il y a encore. Et pour l'avoir testé encore ce matin, là, je cherchais des raccourcis, notamment avec l'application Ferrite, pour créer des raccourcis en fonction de quand j'enregistre des podcasts pour du time tracking. Alors, pour faire du time tracking, il y a de très bons raccourcis qui existent. Avec l'application Timery, dont je dois aussi vous parler dans un article de blog de très bientôt. Mais il y a encore pas mal d'applications sur l'App Store qui gèrent pas bien les raccourcis. Ferrite ne les gère pas bien. Enfin voilà. Donc j'aimerais bien encore plus de possibilités avec cette application, que plus d'applications tierces puissent faire des actions avec raccourcis. Ça serait réellement une très bonne chose. Autre application dont je voudrais voir une nette amélioration, même si ça avance, mais comme d'autres applications Apple, ça avance au rythme d'Apple. C'est l'application Fichier. Fichier s'améliore au fur et à mesure des années, mais c'est encore loin d'être une application de gestion de fichiers, on va dire, parfaite. Et c'est très ironique quand je dis parfaite. Donc, Voilà, c'est les points que j'attends, alors pour cette année ou pour l'année prochaine, mais j'espère que c'est tous ces points, il y en a pas des millions, c'est 4 ou 5 points, mais j'espère qu'ils arriveront assez vite. Comme vous l'aurez compris, pour moi, c'est encore totalement pertinent d'utiliser l'iPad Pro comme machine principale pour créer du contenu en 2022. Et même s'il y a encore de sérieux manques pour en faire une machine quasiment parfaite, l'iPad Pro n'est pas une machine parfaite. Et je ne sais pas s'il existe une machine parfaite. Après, c'est en fonction de votre utilisation à vous. Mais pour moi, au fur et à mesure des années qui passent, ben, l'iPad, ça va de plus en plus dans le bon sens. Toutes les lacunes sont comblées au fur et à mesure des années. Il en manque encore quelques-unes qui ne sont pas comblées, mais ça s'améliore avec le temps. Donc, bah pour répondre à la question du titre de cet épisode, oui, clairement, moi je pense que si je dois changer de machine cette année ou l'année prochaine, mon choix se portera encore sur un iPad Pro de grande taille. Alors ça, c'est aussi un point. J'ai eu un iPad Pro 10,5. Le premier iPad Pro que j'ai eu, c'était le 10,5. C'était bien, c'était utilisable, mais un peu petit. Le 12 pouces est très bien. Je pourrais très bien utiliser encore un iPad un tout petit peu plus grand, un 14 pouces, un 15 pouces, ça ne me dérangerait pas. Parce que quand je l'utilise sans le clavier, généralement je suis posé sur mon canapé, donc avoir une grande tablette dans les mains, ça ne me dérangerait pas. Et en fond, en setup avec le clavier, bah, je suis à mon bureau, donc ça ne me dérangerait pas d'avoir un 15 pouces. Donc voilà, si Apple voudrait encore augmenter un peu la taille de l'iPad Pro, moi je serais pas contre. Bon, le problème c'est que il faudrait encore racheter un Magic Keyboard parce qu'il serait plus compatible. Mais bon, je change pas d'iPad Pro tous les ans, donc bon, c'est comme ceux qui changent de MacBook. Hein, voilà, c'est assez cher, mais bon, c'est des machines qui nous durent quand même dans le temps. Mais bon, voilà. Moi, si je dois changer dans les mois, l'année prochaine, de machine, clairement, pour répondre à la question que je me posais depuis pas mal de semaines, mais maintenant j'en suis arrivé à la réponse que je continuerai avec un iPad Pro, c'est une machine qui me va très très bien pour ma création de contenu. Je ne lui vois à Enfin, moi, j'ai pas de frein à ma création de contenu avec l'iPad. J'ai rien qui me freine. Tout ce que je veux faire, c'est possible avec mon iPad. Donc, pour moi, c'est une très très bonne machine. Et c'est encore, si vous vous le demandiez, assez pertinent de passer sur l'iPad Pro comme machine principale, notamment pour de la création de contenu en 2022. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Je voulais partager, moi, avec vous cette réflexion, car je ne pense pas être le seul à être dans ce cas. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent déjà l'iPad Pro, qui voudraient peut-être plus utiliser l'iPad Pro au quotidien. Donc, si ça peut intéresser d'autres personnes, ben voilà, au moins j'aurais fait cet épisode pour répondre à cette question à ma façon. Ce n'est que mon avis, mais au moins, voilà, j'aurais donné ma réponse à cette question. Si vous avez des réflexions sur le sujet, ben n'hésitez pas à m'en faire part. Tous les liens pour me joindre sont dans les notes de l'épisode. Je tenais aussi à vous remercier particulièrement aujourd'hui si vous m'écoutez, car c'est le 100e épisode du podcast. Et comme je le disais au début de l'épisode, quand j'ai commencé, je ne pensais clairement pas en arriver jusque-là, au 100e épisode. Ça ne sera pas le dernier, il y en aura encore des autres. Le podcast va continuer. Donc voilà, mais je suis assez fier et assez content d'être arrivé au 100e épisode. Donc si vous me suiviez depuis le début, ben, un grand, grand merci. Si vous êtes arrivé en cours de route, ben voilà, je fais assez souvent des épisodes sur l'iPad. Sur les produits Apple, sur la productivité, sur l'iPad. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous. Si vous voulez m'aider à continuer comme ça, bah, n'hésitez pas à aller mettre aussi 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, car c'est encore le meilleur moyen maintenant de faire connaître un podcast. N'hésitez pas non plus à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux. Ça aidera à le faire connaître, à l'étendre. Encore une fois, mille merci. Quant à moi, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous très bientôt dans un prochain épisode. Ciao!